Excuse-moi, j'ai oublié d'enregistrer ma présentation, mais ce n'est pas très grave. Donc Adinel, je te cède tout de suite la parole donc, pour ta présentation.
D'accord, merci Nadine. Alors, cette présentation correspond à une première ébauche d'introduction de ma thèse. Donc, cette thèse porte sur le rapport entre pensée, vision du monde et phénoménologie. Philosophie, vision du monde, phénoménologie chez Heidegger. Je vais introduire à cette question dans cette petite présentation que je vous propose. La publication des trois premiers volumes des Cahiers Noirs de Heidegger, à savoir les Überlegungen 2, 6, 7, 11 et 12, 15 en 2014, comme vous en souvenez sans doute, a produit un choc. Donc ça a été une sorte de tsunami, si l'on ose dire, dont on ne peut pas encore complètement mesurer l'étendue des effets. Dans un premier moment, le moment de l'actualité immédiate, il y a eu une foule de commentaires et de prises de position, non seulement dans les milieux académiques et chez les commentateurs, mais également dans la presse et dans l'opinion publique large. Cette première vague de prises de position passée, on a pu se rendre compte de l'impact de cette vague sur le paysage de la réception de Heidegger. Donc sans que cette réception, sans que ce paysage ait été complètement dévasté, il s'est trouvé néanmoins profondément bouleversé et reconfiguré. Quoi qu'il en soit, trois questions de fond qui avaient déjà été largement débattues au cours ou au sein de ce que l'on a appelé l'affaire Heidegger ont reçu, avec la publication de ces volumes des Cahiers Noirs, un nouvel éclairage. Les trois questions étant: quelle est la nature de la pensée qui s'exprime dans ces écrits de Heidegger, qu'on appelle les Cahiers Noirs, qui ont été appelés les Cahiers Noirs? La deuxième question: y a-t-il une continuité organique entre cette pensée et le reste de l'œuvre? Et troisième question: faut-il dès lors reconsidérer la nature de l'œuvre dans son ensemble? Alors, les différentes réponses proposées à ces trois questions évoluent entre deux prises de position extrêmes, deux termes extrêmes. D'un côté, à un extrême, on a la condamnation pure et simple et la disqualification philosophique sur la base de l'identité qui semble, qu'on affirme avoir été prouvé ou être devenu manifeste désormais après la publication de ces trois volumes, donc l'identification du pensée heideggerien avec la Weltanschauung, la vision du monde national-socialiste. Donc ça, c'est un extrême qui affirme donc en substance qu'il n'y a pas de philosophie heideggerienne, qu'il n'y a pas de pensée heideggerien, qu'il n'y a qu'un prolongement ou qu'une distillation de la vision du monde de la Weltanschauung national-socialiste. À l'autre extrême, on a la tentative de récupération intégrale de ces textes au moyen d'une théorie dialectique de la vérité et de l'errance, dans laquelle la confrontation avec la Weltanschauung nazie devient une nécessité pour la pensée en son cheminement vers la vérité de l'être. Cette prise de position refuse donc de considérer ou de voir une quelconque compromission, une quelconque contamination de la philosophie ou de la pensée heideggerienne par le national-socialisme, et considère qu'il s'agit au contraire d'une confrontation qui est nécessaire pour que cette pensée acquiert sa force, acquiert sa capacité à se plonger véritablement dans l'être, enfin dans l'histoire de l'être. En tout cas, sans, sans rentrer dans le détail de cette prise de position, ce que je veux faire dans la thèse, il est remarquable qu'elle réactualise un couple notionnel qui était tombé dans l'oubli après avoir fait couler beaucoup d'encre à la fin du 19e siècle et au début du 20e, à savoir le couple philosophie et vision du monde, Weltanschauung. Toutefois, cette réactualisation dans ces différentes prises de position est problématique, car elle opère avec une notion de Weltanschauung qui reste ambiguë, qui n'est pas assez analysée, et qui tend, et donc cette réactualisation tend à établir entre les deux notions un rapport de disjonction exclusive, ce qui est en effet problématique. Pour illustrer ce caractère problématique, enfin, c'est l'ambiguïté de cette réactualisation, on peut observer que, pour certains commentateurs, le terme Weltanschauung devient une sorte de nom propre à référence unique, c'est-à-dire Weltanschauung, dans certains commentaires, dans certaines prises de position, est synonyme de vision du monde national-socialiste. Ce qui est pour le moins ambigu, car Weltanschauung est un terme générique, un nom commun, dont la Weltanschauung nazie n'est qu'un cas particulier, une instance, et ce qui allait de soi, par ailleurs, au début du XXe siècle, donc chez ceux qui employaient ce terme. En tout cas, cette ambiguïté contribue à entretenir un raisonnement sophistique, une forme de, une modalité de la reductio ad absurdum, que Léo Strauss appellera la reductio ad Hitlerum, dans laquelle un discours susceptible d'être qualifié de Weltanschauung et qui contient en plus des éléments communs ou qui rappellent des éléments qui se trouvent dans le discours nazi ou dans les discours nazis devient ipso facto suspect et puisque Hitler est condamnable, donc condamnable. Cela ne va pas de soi parce qu'il y a un problème d'identité qui surgit tout de suite, c'est-à-dire quelques éléments communs ne font pas une identité, même si bien sûr ils doivent éveiller l'attention du lecteur ou du commentateur. Donc cette erreur a été, ce sophisme a été pointé pour la première fois par Léo Strauss, qui met par ailleurs en garde contre lui. Contre ce sophisme. Et je me permets de vous renvoyer à un texte de Léo Strauss dans Droit naturel et histoire, où il dit « Il n'est malheureusement pas inutile d'ajouter qu'au cours de notre examen, nous devrons éviter l'erreur, si souvent commise ces dernières années, de substituer à la reductio ad absurdum la reductio ad illerum. Hitler et partager une opinion ne suffit pas à la réfuter. » Je ferme la citation. Donc, dans le cas de Heidegger, le penchant pour la reductio ad Hitlerum semble renforcé ou semble assez naturel, ou en tout cas pas entièrement stupide ou dépourvu de respectabilité, car, pour reprendre encore une formule de Léo Strauss, Heidegger devint, comme on le sait, nazi en 1933 lorsqu'il accède au rectorat de l'université de Fribourg. Cependant, il serait, comme le dit encore Léo Strauss, stupide et inconsidéré de fermer les yeux, ses yeux sur cette œuvre sur la base d'un sophisme, sur la base de cette reductio ad Hitlerum. Donc, il y a un penchant à appliquer à l'œuvre de Heidegger ce sophisme, cette reductio ad Hitlerum, dans la mesure où il peut sembler logique, de prime abord, de penser que quelqu'un qui devint nazi va utiliser les mots du jargon nazi avec leur signification nazi. Donc, quelle est la signification nazie du terme Weltanschauung? L'expression Weltanschauung, comme on le sait depuis le livre Lingua Terti Imperii, donc le langage, la langue du Troisième Reich de Victor Klemperer, Weltanschauung était devenu un maître mot de cette LTI, de cette Lingua Terti Imperii, au sein de laquelle il avait la fonction d'un terme clanique, c'est-à-dire d'un marqueur d'identification de discrimination qui permet d'affirmer l'appartenance raciale d'un individu ou d'un groupe et qui permet de hiérarchiser les races. C'est le cas chez Hitler ou chez Rosenberg, par exemple, dans le mythe du XXe siècle de ce dernier. La capacité à produire ou articuler des visions du monde justifie la supériorité prétendue de la race aryenne sur les autres races. Il y a des passages, par exemple, où Rosenberg compare le chinois et l'allemand. Voilà, il y a toute cette mise en scène grotesque et puis avec un ton tout à fait pédant. Et ce qui caractérise l'allemand, c'est précisément sa capacité à articuler un ensemble en une vision du monde unitaire. Donc, sa capacité à produire des visions, la capacité à produire des visions du monde serait un spécifique des Allemands et serait un marqueur, un signe de leur supériorité raciale. Les nazis, c'est un fait, c'est certain, ont détourné et donné un sens péjoratif à un terme qui, pour reprendre la formule de l'historien Fritz Stern, avait, avant sa récente vulgarisation, donc par le nazisme, possédait une respectabilité philosophique. Le terme Weltanschauung a été bien certainement donc ce terme qui avait une respectabilité philosophique dans les milieux académiques et en particulier chez les philosophes, a été, il y a eu une tentative de récupération de ce terme de la part des nazis. Mais comment? Puisque, comme tout le monde le sait, les nazis n'étaient pas tout à fait des intellectuels et n'étaient pas tout à fait sortis des milieux académiques. Klemperer explique ce passage ou cette récupération de Weltanschauung par les nazis par la médiation de certains cercles de la droite, des cercles conservateurs, revanchards et militaristes, cercles qui étaient eux plus ou moins intellectualisés et dans lesquels le terme Weltanschauung était un terme de coterie néo-romantique. Donc, c'est dans ces milieux que, ou à partir de ces milieux, que le terme Weltanschauung est passé vers la LTI, ou a migré vers la LTI, en devenant par la suite, avec certaines modifications, un maître mot de celle-ci. Par rapport à cela, Heidegger sera l'un des premiers à soulever une question ou à pointer ce fait, mais est-il vraiment légitime d'introduire une rupture entre les usages savants du mot Weltanschauung, donc Weltanschauung dans les milieux académiques et philosophiques, et ces usages vulgarisés ou semi-vulgarisés? Ce qui n'est pas du tout certain. Ainsi, quand on reproche à Heidegger la façon dont il retrace la genèse du mot Weltanschauung dans le cours du semestre d'hiver 1928-29, qui s'appelle Introduction à la philosophie, donc c'est la Gesamtausgabe 27, à partir de l'idéalisme allemand et en particulier de Schelling et sa théorie de la production inconsciente de l'esprit, de fait, qu'est-ce qu'on lui reproche en réalité? C'est une reproche que lui fait par exemple, que lui adresse par exemple Emmanuel Faye. Que l'idéalisme allemand ait contribué à donner à la Weltanschauung l'une de ses significations canoniques, c'est quand même un fait. Et l'histoire du mot Weltanschauung est en général, et c'est ce que je vais essayer de montrer aussi dans ma thèse, liée à celle du romantisme et de l'idéalisme allemand, à peu près de la même façon que l'histoire du mot idéologie est liée à celle du matérialisme. Matérialisme français et ensuite matérialisme allemand. Maintenant, en entrant dans la LTI, dans la lingua tertiary, Weltanschauung devient un maître mot. C'est-à-dire, un maître mot, comme le souligne Klemperer, est un slogan, un Schlagwort, qu'on ne cesse de matraquer, de répéter. Et c'est cette répétition qui crée du sens, ou donne l'impression de créer du sens, en se substituant à toute forme de pensée, à toute forme d'articulation. La répétition ad nauseam de Weltanschauung, d'ailleurs dans certains textes de l'époque, on parle du Weltanschauung par-ci, Weltanschauung par-là, donc la répétition ad nauseam du terme se substitue dans la LTI à une certaine pensée, et en particulier à la référence à la pensée rationnelle. Autrement dit, la Weltanschauung est le marqueur ou est le signe, donc le marqueur de l'identité raciale, d'appartenance raciale, mais en même temps, en creux et par absence, l'indication de la disparition ou du rejet de la pensée rationnelle, de la pensée guidée par le souci de la vérité et la justification de celle-ci. Et je me permets de citer encore Klemperer à ce sujet. Ce qui a conduit la LTI à utiliser ce mot, ce n'est pas le fait qu'elle ait vu une germanisation du mot, d'un mot d'origine étrangère, du mot d'origine étrangère qu'est philosophie. Elle ne se souciait pas toujours de germanisation, non, mais elle y trouvait exprimée l'opposition la plus importante, selon elle, à l'acte de philosopher. Donc, Weltanschauung exprime l'opposition à l'acte de philosopher, à la pensée philosophique, en tant que, et je reprends la phrase de Klemperer, car philosopher est une activité de la raison, de la pensée logique, et le nazisme y est hostile comme à son pire ennemi. Fin de citation. Donc, la transformation de Weltanschauung en un maître mot de cette lingua tertia imperii va de pair avec sa transformation en porte-étendard du rejet de la pensée rationnelle, de la pensée logique, de la discursivité, de l'argumentation. Voilà, donc ce que l'on associe à la philosophie, ou en tout cas à une certaine tradition philosophique. Donc la LTI, la lingua tertia imperii, est traversée par l'opposition entre deux conceptions de la vérité. Une conception qui est affirmée et une autre qui est rejetée. Donc d'un côté, celle qui est rejetée, c'est la vérité une et universelle, censée exister pour une humanité universelle imaginaire. Donc ce serait, c'est du point de vue des nazis, un fantasme, une fiction, quelque chose de corrupteur pour la race. De l'autre côté, la vérité organique qui naît du sang d'une race et ne vaut que pour cette race. Si la première se démontre, ou du moins se discute, la deuxième se vit dans l'appartenance biologique à la communauté et dans l'obéissance aveugle au Führer. Or, ce qui caractérise cette communauté biologique, c'est son idéalisme fanatique qui fait qu'elle investit toutes ses énergies physiques et spirituelles envers une idée qui figure l'au-delà. Et c'est ainsi que Möller-Vandenbroek caractérise, dans son livre Le Troisième Reich, précisément ce Troisième Reich en tant que Weltanschauungsgedanke, pensée de Weltanschauung. De plus, chez certains, comme Ernst Krieg, l'un des philosophes officiels du régime, sinon le philosophe officiel du régime nazi, le rejet de la pensée rationnelle devient purement et simplement rejet de la philosophie sur la base du raccourci philosophie égale pensée rationnelle. Je cite un passage d'Ernst Krieg. La philosophie telle qu'on l'entend généralement est caractérisée par un principe universaliste. Le fait que la vision du monde national-socialiste met fin à tout universalisme, je souligne, c'est très important ce principe de mettre fin à tout universalisme, pour le remplacer par le principe de la race, qui est par définition un principe particulariste, devait conduire logiquement à déclarer la fin de la philosophie, pour la remplacer par une cosmologie et une anthropologie raciste. Fin de citation. Donc la philosophie universaliste, et en particulier sa partie première, la métaphysique, seront considérées par certains nazis les plus exaltés, mais est-ce qu'on peut être nazi sans être exalté, comme les productions d'un esprit dévitalisé, voire imputé aux juifs. Donc pour cela, je renvoie au livre de Johann Chapoutot, « La loi du sang », qui analyse, enfin qui fait, qui passe en revue précisément toutes ces tentatives de récupération de la philosophie ou des philosophes par les nazis. Quoi qu'il en soit, que le rejet de la philosophie soit explicite ou implicite, c'est-à-dire tout simplement qu'on la passe sous silence, qu'on n'en parle pas, il y a une volonté tout à fait claire dans le nazisme. Et chez ses porte-plumes, en premier lieu Hitler et Rosenberg, de substituer au logos philosophique un nouveau mythos à caractère mystique et messianique. Donc, tel étant l'usage de Weltanschauung, du mot Weltanschauung dans la LTI, est-ce que on peut observer les mêmes choses, la même chose chez Heidegger? Je vais essayer de montrer que non, même si effectivement Heidegger a conscience que la Weltanschauung, le terme dans le discours nazi, va aller vers cette signification, dans cette direction-là. Maintenant, l'absurdité et la démesure de l'entreprise nazie en général semblent condamner sa vision du monde à l'irrationalité et à l'inintelligibilité. Pour reprendre une formule de Primo Levi, dans Si c'est un homme, je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène où il se prend un coup de la part d'un. De la part d'un capot, et à sa question Warum, pourquoi, la réponse qui fut, c'est Hier ist kein Warum. Donc, Hier ist kein Warum, disait Primo Levi du camp d'Auschwitz. Peut-on dire autant de la Weltanschauung qu'il a rendu possible? Donc, est-ce que dans cette Weltanschauung, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de pourquoi? Est-ce que ce n'est qu'un pourri qu'un amas de choses absurdes et incohérentes. Or, force est de reconnaître, et les historiens, dont Johann Chapoutot, ont beaucoup œuvré pour le démontrer, la Weltanschauung nazie contient bien des warum. Et je cite Chapoutot, en tentant de répondre à la question du warum, on va de surprise en surprise. On se rend compte que la folie du Troisième Reich fut, pour les acteurs des crimes nazis, tout autre chose qu'une folie. L'obéissance à des ordres donnés dans les règles de la chaîne hiérarchique, des actes de défense du Reich et de la race, une nécessité historique répondant à une menace biologique sans précédent. Le phénomène nazi fut, outre une invraisemblable série de crimes, un récit et un corpus normatif, récits énormes qui visèrent à faire accepter aux acteurs de ces crimes que leurs actes étaient légitimes et justes. Le récit, c'est la vision nazie de l'histoire, saturée d'angoisse biologique et tissée d'avertissements apocalyptiques. Donc la vision du monde, la vision nazie du monde et de l'histoire, c'est ce qui fournit le récit sur la base duquel se construit toute une normativité. Normativité qui est précisément analysée par Johann Chapoutot dans son livre La loi du sang, qui est un livre très documenté et précisément dont je me sers extensivement. Donc, étant un élément central de la révolution culturelle nazie, donc révolution culturelle nazie, c'est aussi une expression de Chapoutot pour montrer précisément que il y a une sorte de cohérence, il y a une logique du nazisme, et que cette logique, elle est totale, elle vise à une refonte de fond en comble de la société, des mentalités, de l'éducation. Mais une révolution dans un sens qui est pré-révolutionnaire, dans le sens du retour à une origine idéalisée, à une pureté située dans le passé. Donc révolution à peu près dans le même sens que lorsqu'on parle de révolution conservatrice pour la même période. Donc élément central de la révolution culturelle nazie, la Weltanschauung qu'ils promeuvent, que cette révolution promeut, prétend apporter des réponses à des questions que se posent les contemporains, ou plutôt à des questions que la modernité industrielle, urbaine, culturelle adresse à ceux qui la vivent. Donc, il y a bien des warum dans la Weltanschauung nationale-socialiste. Celle-ci n'est pas dépourvue ou vide de toute forme de pensée. Parmi ces questions, pour ne prendre qu'un exemple, celle socio-économique de l'opposition entre le travail prolétarien et la culture bourgeoise, que le nazisme affronte ou se propose de résoudre grâce à l'éducation théorique et pratique dans l'esprit de la nouvelle Weltanschauung. Et en particulier, ce sur quoi beaucoup de témoins de l'époque et un certain nombre de philosophes attirent l'attention, comme Carl Witt, l'utilisation des camps de travail et donc de l'éducation des ouvriers, l'éducation prolétarienne par la jeunesse étudiante. Donc la promotion, la fraternisation entre la jeunesse étudiante et le peuple et les ouvriers dans les camps de travail pour la construction, pour la constitution d'une Weltanschauung politique qui succéderait à la culture bourgeoise ou qui se substituerait justement à la culture bourgeoise. Donc, quoi qu'on puisse penser de cet exemple, qui n'est qu'un parmi beaucoup d'autres, et aussi stupéfiant, inaudible et révoltant que cela puisse paraître, nous paraître après Auschwitz, ces idées purent convaincre. Si elles purent convaincre une fois, il est sans doute possible qu'elles convainquent de nouveau. Et c'est la raison pour laquelle il faut les combattre. C'est aussi la raison pour laquelle il faut dénoncer et démasquer les personnages charismatiques qui en ont été les porte-paroles. Mais il ne faut pas oublier que ces nobles buts n'excusent pas tous les moyens. Que Heidegger ait consacré beaucoup d'efforts et de pages à l'analyse et à l'histoire de la notion de Weltanschauung est un fait. D'ailleurs, mon opinion, c'est que Heidegger, c'est le premier véritable historien de la notion de Weltanschauung. Que par moments, son approche de cette histoire puisse surprendre, comme lorsqu'il affirme que le terme de Weltanschauung comporte une frappe spécifiquement allemande, est indubitable. Donc c'est une affirmation étonnante, mais c'est une affirmation que j'ai trouvée aussi chez Freud, donc je ne sais pas quelle conclusion on peut en tirer. Mais que le théoricien et l'historien de la Weltanschauung soit en même temps le promoteur d'une Weltanschauung meurtrière, c'est une hypothèse que seule l'analyse patiente des textes puisse confirmer ou réfuter, parce qu'il s'agit d'une question d'identité entre les éléments et l'articulation du discours heideggerien et les éléments et l'articulation du discours nazi. En tout cas, il nous semble faux de se tenir à Heidegger. Fabrique une généalogie et un sens de la Weltanschauung à l'usage du nazisme. Son histoire du concept correspond à peu près à celle qui est retracée par les spécialistes contemporains et qui distingue grosso modo trois périodes, donc l'apparition du terme, du mot chez Kant et sa reprise par Fichte, ensuite la pénétration l'utilisation du terme dans l'idéalisme allemand, la pénétration dans l'opinion publique, dans le public large, et puis l'orientation après Kierkegaard vers une opposition entre philosophie et Weltanschauung. Donc l'histoire que Heidegger l'histoire de ce concept retracé par Heidegger correspond à peu près à ce que l'on sait aujourd'hui. Mais chez lui, cette histoire se double d'une réflexion sur le problème ontologique ou métaphysique qui se trame à l'arrière-plan, qui est le problème de l'historicité de l'être, de la conscience et du sens. Et c'est un problème qu'il partage avec en particulier son maître Husserl, qu'il partage aussi avec Jaspers, ce que l'on voit dans l'intérêt qu'il porte à la psychologie des visions du monde de Jaspers. C'est un problème qui se posait en fait au cercle philosophique en général à l'époque. Et je crois que j'ai un peu cramé mon temps. Donc je vais peut-être m'arrêter là s'il y a des questions.
Merci beaucoup Adinel. C'est un sujet très, comme tu l'as dit, très sensible évidemment, et je suis vraiment contente que tu te sois engagée dans ce travail qui permet de replacer, recadrer ces questions souvent abordées sur un plan qui est encore assez infra-philosophique dans certains cas, de leur redonner un sens philosophique et d'essayer de les resituer dans un contexte aussi historique à travers cette généalogie du terme de Weltanschauung. Je pense que c'est un fil sans doute essentiel pour différencier, complexifier cette sorte d'opposition que tu as d'ailleurs mentionnée au début, hein, qui semble irréductible et qui fait que ce type de question se confrontent souvent à un dialogue de sourds encore aujourd'hui. Donc merci de faire ce travail et de nous en avoir montré un certain nombre de le laboratoire en fait aussi de ton interrogation. Évidemment, on reste un peu sur sa fin concernant la confrontation avec le texte de Heidegger lui-même, parce que je pense que c'est aussi là que les choses se jouent et la démonstration, elle sera opérante dès l'instant où tu auras pu vraiment faire une analyse interne aussi de la philosophie de Heidegger dans cette configuration. Mais en tout cas, voilà, on a du coup les éléments du dossier et la cartographie, je trouve, à partir de là, de la manière dont on peut aborder la question de façon, je dirais, posée et rationnelle, justement, pour reprendre le terme que tu as utilisé également. Donc je propose qu'on prenne quand même un petit peu de temps pour des questions, voilà, qui, je pense, ne manquent pas de venir à vos esprits éveillés, peut-être, et pour avoir quelques minutes, même si tu as effectivement, comme tu as dit, cramé ton temps. En même temps, je trouve que ce serait dommage de laisser les choses en l'état sans un minimum d'échanges et de retours. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez des précisions ou une question qui puisse permettre à Adinel de rebondir aussi, de profiter de vos réactions. C'est toujours un peu compliqué quand on découvre un travail synthétique comme tu l'as présenté, mais très bien, hein, très clairement. Oui, Marie-Aimée, merci.
Alors d'abord, je vous souhaite bien du courage pour être lancé dans cet univers-là pendant des années. C'est pas forcément évident, mais c'est vrai que c'est, comme a dit Mathilde Delphine, c'est important d'avoir des analyses scientifiques et pas que idéologiques ou infra-philosophiques sur ces questions. En vous écoutant, je ne pensais pas du tout qu'on aborderait ça aujourd'hui, mais en vous écoutant, il y a deux choses qui me sont venues. La première, c'est quand vous avez cité Yuan Chaputo en expliquant où il explique qu'il y a une sorte de logique dans la manière dont les nazis font de la récupération, de ce terme de Weltanschauung. Et vous disiez, il y a bien une logique tissée d'avertissements apocalyptiques, d'inquiétudes biologiques, de racisme, etc. Ce qui fait qu'il y a une pensée. La première question, c'est est-ce que c'est vraiment une pensée, ou est-ce que c'est, enfin, est-ce qu'on peut utiliser ce mot, disons, ou est-ce qu'il ne faudrait pas justement utiliser le terme d'idéologie et bien différencier ce qui est de l'ordre de la pensée et ce qui est de l'ordre de l'idéologie, sachant que l'idéologie, il y a un très bon article de Jean-Luc Marion qui montre qu'une idéologie, c'est quelque chose qui ne s'ancre jamais sur le réel, mais qui vient tordre le réel, enfin qui veut faire rentrer le réel dans ses notions, mais qui ne sont pas du tout tirées d'une expérience, qui font semblant d'être tirées d'une expérience, mais qui en fait sont une torsion du réel, et avec tout le lien avec Hannah Arendt, idéologie et terreur, on montrait combien en fait la notion d'idéologie engendre toujours, enfin est toujours corrélée finalement à la terreur, parce que elle refuse toute pensée justement qui viendrait s'appuyer sur l'expérience et prouver qu'il y a quelque chose de complètement qui n'a pas du tout les pieds sur terre, c'est plus que les pieds sur terre, enfin qui ne correspond à rien en fait. Donc ça c'est ma première, la première chose qui me vient peut-être de montrer, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, si on voit ça dans l'analyse, mais que finalement c'est peut-être pas forcément une vision du monde, mais plutôt une idéologie, enfin est-ce que on peut faire une distinction? Et ma deuxième question, enfin la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est parce que le mot de Weltanschauung, je pense qu'il apparaît assez souvent sous la plume d'Edith Stein, et donc dans un sens évidemment pas du tout nazi, puisqu'elle va justement mourir à Auschwitz, enfin voilà, donc est-ce que vous avez à un moment donné une possibilité de faire un lien et de montrer voilà une autre manière de penser la vision du monde dans les mêmes années en fait que Heidegger, puisqu'ils se connaissent, hein. Enfin, je sais pas, c'est des questions qui me viennent comme ça, mais c'est peut-être hors de votre sujet en fait. Je ne me rends pas trop compte si c'est vraiment axé sur Heidegger lui-même, mais est-ce que voilà, Edith Stein, est-ce que ça pourrait être une petite, voilà, une soupape quelque part, et la notion de, enfin, la distinction entre idéologie, pensée, c'est ma question.
Ben merci beaucoup pour ces questions qui effectivement sont en rapport avec mon travail, avec ce qui m'intéresse. Bon, plus la première que la deuxième, parce que effectivement, et je vais peut-être commencer avec la deuxième, je ne pensais pas parler ou faire une place à Edith Stein, puisque j'ai déjà plein d'auteurs, si vous voulez, que je veux caser, mais si vous voulez, je pense faire une place à Simone Veil. En particulier donc au livre sur l'enracinement que je vais exploiter du point de vue précisément de la signification et d'une théorie générale des visions du monde, enfin des Weltanschauung. Ensuite, donc, enfin juste pour prolonger un petit peu, effectivement, ce terme, cela ne m'étonne pas du tout qu'il soit présent chez Einstein parce que c'était un terme tout à fait courant dans les milieux académiques de l'époque. C'était un terme qui était rentré dans le vocabulaire donc de la réflexion théologique et aussi dans le vocabulaire des scientifiques. Donc, quand Einstein parle de ma vision du monde, si vous voulez, mais bien sûr, Einstein n'est pas un nazi et sa vision du monde n'est pas la vision du monde national-socialiste. Donc, ce que je reviens à ce que j'ai dit, à savoir qu'il y a une conception. Enfin, il y a un concept général de vision du monde à partir du qui en subsume d'autres qui peut se particulariser de différentes façons, et la vision du monde national-socialiste n'est qu'une particularisation parmi d'autres de ce concept, mais c'est quand même une particularisation de ce concept. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose de complètement étranger. Et pour la première question, donc sur le rapport à l'idéologie, à l'absence de pensée dans l'idéologie, bon, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Marion, c'est-à-dire que l'idéologie, effectivement, est un terme, est une dimension qui m'intéresse, parce que c'est un terme avec lequel on tend souvent à confondre, enfin, un terme que l'on prend souvent comme synonyme de Weltanschauung ou de vision du monde. Vous avez des auteurs qui les traitent comme des termes équivalents. Mais ce que j'essaie de faire, moi, dans une première partie qui essaie de bâtir ou de poser les bases d'une théorie générale des visions du monde, des Weltanschauungen, c'est précisément de montrer qu'il y a une différence entre les deux. Faire très simple, le corrélat de l'idéologie, c'est la société, c'est le corps politique. Il n'y a pas d'idéologie individuelle. Le corrélat de la Weltanschauung, c'est toujours un esprit particulier. La Weltanschauung, c'est d'abord un outil ou une condition d'identité personnelle et de trouver du, enfin, d'organisation, de mise du sens dans une existence particulière, une existence individuelle. Maintenant, sur la thèse de Jean-Luc Marion qu'il n'y a pas de pensée dans l'idéologie, je ne suis pas d'accord parce que justement, je pense que l'idéologie est une forme de pensée. Et c'est une forme de pensée de la totalité ou de la totalité unité. L'idéologie, et par rapport à cela, si vous voulez, moi je vais m'appuyer surtout sur les analyses de Ricoeur. On peut en distinguer plusieurs fonctions. Donc la fonction de détachement ou de torsion du réel ou de distorsion du réel n'en est qu'une. C'est une fonction qui a été mise en avant par Marx dans l'idéologie allemande et qui a été reprise par le marxisme après. Mais ce n'est pas la seule fonction et ce n'est pas la seule façon de comprendre l'idéologie. L'idéologie chez Weber a une fonction positive, elle a une fonction d'identification ou de constitution du corps collectif, du corps politique. Et de même, elle peut avoir d'autres fonctions. Donc, certes, l'idéologie, c'est une façon de simplifier la réalité, ce qui ne veut pas dire systématiquement la tordre ou la distordre. Dès lors, je ne suis pas... une idéologie, disons, écologiste, je ne suis pas sûr que ça crée ou ça soit productrice de violence et que ça soit je pense
on peut discuter mais on va pas faire de politique.
Je pense que c'est réducteur que de prolonger ou de s'en tenir à la définition ou à l'approche marxiste ou marxienne de l'idéologie et de la congédier un petit peu trop rapidement comme une absence de pensée ou une sorte de juste de disculpation ou de justification de la violence.
Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Je suis ravie. Déjà, pour moi, la journée a rempli sa fonction rien qu'avec votre échange, je dois dire. Donc, merci à tous les deux.
Merci.
Je pense que c'est une vraie question et c'est vrai qu'on peut penser, enfin, juste pour rebondir 2 minutes, parce qu'on ne va pas non plus prolonger trop, mais quand on parle d'idéologie, on peut aussi revenir tout simplement à l'étymologie. Hein, c'est le logos des idées. Finalement, dans cette dimension, on peut aussi, par exemple, se dire que la simplification n'est pas forcément une caricature si on a en tête, par exemple, ce qu'on peut produire en termes d'histoire des idées. Quand on fait de l'histoire des idées, on n'a pas forcément un regard critique aussi acéré, peut-être, que quand on fait de la philosophie. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va conduire à de la déformation, enfin qu'il y a un jugement de valeur impliqué immédiatement. Enfin, on peut se poser la question du moment où ça bascule effectivement en jugement de valeur et en caricature, mais ce n'est pas nécessairement inclus dans la définition du terme idéologie. C'est inclus dans un certain nombre de ces avatars, effectivement. Mais peut-être ce serait intéressant à Dinel de voir si tu auras un diagnostic parallèle entre un certain nombre d'avatars de la Weltanschauung. Comme il peut y avoir un certain nombre d'avatars de l'idéologie, mais est-ce que c'est contenu dans leur définition ou est-ce que ce sont des extrapolations et des exemplifications historiquement situées je pense que là, il y a une ligne de partage intéressante à explorer, en tout cas à essayer d'affiner. Et sinon, peut-être pour rebondir aussi sur la variation sur Edith Stein, je pense que c'est aussi peut-être. Alors, je pense qu'effectivement, ton terrain sera plus lié à Simone Weil, mais au fond, voilà, peu importe, parce qu'en réalité, l'idée, c'est d'avoir. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un comparatif aussi, peut-être d'avoir une possibilité de variation pour justement explorer plus avant le mécanisme. Qu'est-ce qui est en jeu quand on produit une Weltanschauung est-ce que. Ou autre question, est-ce que toutes les Weltanschauung se valent si oui, quel que soit, alors c'est vrai que ça devient vite problématique, mais quels que soient leurs effets délétères ou au contraire bénéfiques, mais on est à nouveau dans la sphère de la valeur, hein, c'est intéressant, ça nous ramène aussi à ce que construisait Alexis. Est-ce que finalement le mécanisme même de production d'une Weltanschauung dans ces différentes exemplifications dont on peut disposer dans l'histoire. Donc à nouveau, la dimension comparative est intéressante. Alors, ces différentes instanciations, hein, tu disais c'est une simple instance, l'idéologie, la Weltanschauung, pardon, national-socialiste. Est-ce que d'une certaine manière, dès l'instant où on est dans une cette production d'une comment dire d'une certaine conception du monde, est-ce que justement le trait que tu évoquais, c'est la particularisation? Est-ce que le processus de particularisation, il est inhérent finalement à la production d'une Weltanschauung, quelle qu'elle soit, positive ou négative d'ailleurs? Et est-ce qu'il faut tenir ferme finalement l'universel, jusqu'où, comment, et est-ce que la particularisation destitue finalement la philosophie de sa légitimité? Enfin, bon, c'est des questions un peu en arrière-plan, mais voilà, je pense que
non, justement, ce sont des questions essentielles qui se posent avec cette notion de Weltanschauung, et puis d'une certaine façon aussi avec la question de l'idéologie. Donc pour rebondir sur ce que tu disais, au début, effectivement, l'idéologie à la base, c'est un terme qui a été forgé quand même par les Français, Cocorico, donc par des studios de Tracy, l'idéologie chez des studios de Tracy, c'est tout simplement la science de l'idée, ou théorie générale des idées. Autrement dit, dans une perspective matérialiste du fonctionnement de l'esprit et du fonctionnement de l'être vivant, inspiré de Condillac. D'ailleurs, M. de Tracy attribue l'idéologie d'invention à Condillac. Les idées ne sont que les reflets ou le prolongement de la réalité dans l'esprit des individus. Donc, par définition, l'idéologie n'est pas une distorsion, une déformation de la réalité. Maintenant, lorsque Marx reprend le terme et dans l'idéologie allemande, et dans les manuscrits, bien sûr, il lui donne une autre signification, donc il le resignifie de façon négative, parce que ce qui intéresse Marx, c'est de critiquer l'idéalisme allemand, de se positionner de façon critique par rapport à celui-ci, et donc par rapport à toutes les constructions spéculatives. Donc vous rappelez, enfin voilà, les philosophes n'ont fait qu'interpréter la réalité, il est désormais temps de la transformer. Donc c'est à partir de Marx, et donc avec la constitution qui est celle de Marx, que l'idéologie va être resignifiée de façon négative, va devenir en fait la déformation d'abord du réel, ou alors la contrepartie de la science, en sachant que le matérialisme dialectique, c'est la science qui n'est pas idéologique. Bref, quant à la question donc de la valeur des Weltanschauung, justement, c'est à la... Quelque part, c'est à l'arrière-plan de la première partie de ma thèse, parce que je pense que cette idée, cette question, c'est la question de Diltay, c'est la question de Mannheim, c'est la question de Jaspers. Donc à partir du moment où on admet qu'il n'y a que des Weltanschauungen, ou que la Weltanschauung, c'est l'horizon ultime de l'esprit humain, ou du développement de l'esprit, à ce moment-là, qu'en est-il de la vérité? Et surtout, qu'en est-il d'une vérité universelle, d'une vérité absolue, ou de la possibilité même de la science? Est-ce qu'il y a un moyen de sortir de ce paradoxe de Mannheim, de ce paradoxe de ce relativisme des Weltanschauungen? Je pense que il faut avoir deux choses à l'esprit. Donc premièrement, est-ce qu'il y a oui, les idéologues du XVIIe siècle, tout à fait. Est-ce qu'on peut transcender cela, ou est-ce qu'il peut y avoir une sorte d'étude objective des Weltanschauungen? Donc la question qui se pose, en fait, c'est celle de la possibilité de dégager quelque chose comme une syntaxe, une sémantique des visions du monde des Weltanschauungen. Donc on fait un objet d'étude scientifique, pourquoi pas phénoménologique justement, et à partir de là, est-ce qu'il y a la place ou la possibilité pour une transcendance ou une sorte de sortie, si vous voulez, de la caverne des Weltanschauungen, pour reprendre la métaphore platonicienne, qui serait la philosophie. du point de, enfin, les théoriciens des Belten Chaleng, et en particulier Diltay et même Mannheim, considèrent que la seule façon de procéder, c'est de faire une sorte de typologie générale de Belten Chaleng. Donc la philosophie se réduirait en dernière instance à une théorie comparative, une théorie typologique des Belten Chaleng, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison que celui-là. Mon avis à moi est un peu différent parce que je pense qu'il y a lieu, et donc je prends à partir, enfin je m'appuie surtout sur le rationalisme de Husserl. Donc dans son article de Logos.
Dans la philosophie comme science rigoureuse.
Voilà, la philosophie comme science rigoureuse. Merci Nathalie. Et où précisément à travers la critique de la philosophie comme Belten Chaleng, donc la critique de Diltay, Husserl propose une piste qui serait une Belten Chaleng scientifique, ou la construction à côté de la philosophie comme science rigoureuse d'une sagesse sur des bases scientifiques et non plus juste expérientielle ou affective, etc. Mais voilà, si on peut poser, si on peut constituer quelque chose comme une syntaxe, une sémantique des visions du monde, je pense que donc si on peut les ramener, enfin à une sorte de type général avec différentes, avec une structure qui puisse se déployer, se dérouler en différentes directions. À ce moment-là, effectivement, on peut donc d'un côté résoudre la question donc de la particularisation des Belten Chaleng. Donc, qu'est-ce qui peut être Belten Chaleng, ou selon quels critères on peut dire que tel ou tel discours, enfin, ça va nous donner des critères pour dire que tel ou tel discours relève de la Belten Chaleng, d'un côté. Et puis, deuxièmement, ça permet aussi de contraster cette syntaxe et cette sémantique avec la démarche qui est proprement philosophique. Et donc, montrer que s'il y a une différence de structure, d'approche, de démarche et de conceptualité entre ces deux discours, peut-être que l'horizon ultime de la pensée ou de la sagesse humaine n'est pas la Belten Chaleng, mais il y a quelque chose qui le transcende. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais...
Oui, c'est très articulé. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Adinel.
Merci à vous.
Donc voilà, donc on va malheureusement devoir interrompre cet échange. On pourrait je pense qu'il y aurait d'autres questions à poser et j'imagine que vous en avez d'autres à l'esprit. N'hésitez pas à en poser sur le chat parallèlement. Voilà, c'est aussi une occasion d'échange. Donc on a de toute façon explosé notre temps, mais c'est pas grave. Je pense que ça fait partie du jeu. Donc